Oyez, oyez, auditeurs de Radio Coeur Chartreuse.
Une nouvelle émission mensuelle arrive sur nos ondes.
Découvrez l'émission de votre parc naturel régional de Chartreuse.
Mais également les richesses de votre territoire au fil des émissions qui lui sont dédiées tous les mardis à 12h et les samedis à 18h.
Et ça s'appelle le parc au naturel.
À bientôt.
Bienvenue à vous, chers auditeurs, dans cette nouvelle émission du Parc au naturel, l'émission mensuelle du Parc naturel régional de Chartreuse. Cette émission vous permet de mieux comprendre les missions du Parc vis-à-vis des divers acteurs du territoire et de façon plus générale pour accompagner au développement du territoire. Nous allons traiter aujourd'hui du sujet de l'alimentation et pour ce faire, nous recevons Stéphane Gusmeroli, maire de Saint-Pierre de Chartreuse et vice-président à l'agriculture. Bonjour Monsieur Gusmeroli.
Bonjour.
Et Gaëtan Pascal, chargé de mission sur la transition alimentaire pour le parc naturel régional de Chartreuse. Bonjour Gaëtan.
Bonjour.
Alors, pour commencer, messieurs, qu'est-ce que c'est que la transition alimentaire dont on entend beaucoup parler, surtout, on en a entendu beaucoup parler au mois d'octobre ?
Alors, peut-être déjà, je me permets une petite correction, parce que je suis vice-président à l'agriculture et à la transition alimentaire.
Pardon, excusez-moi. Excusez du peu, je l'avais noté en plus, oui, et puis...
Voilà, en fait, c'est au-delà de la correction anecdotique, c'est surtout qu'on a, par le biais du nom de cette vice-présidence, on a voulu vraiment insister sur cet enjeu-là, effectivement, parce que l'agriculture, bien évidemment, mais aussi ce sujet qui est un enjeu majeur pour les années futures, enfin maintenant et les années futures sur notre territoire. Et donc, c'est un axe fort de la politique du parc. Et notamment, c'est un axe fort inscrit dans la nouvelle charte du parc, oui, que de favoriser une alimentation durable. Voilà, donc derrière ce terme qui veut dire beaucoup de choses. En tout cas, on a voulu marquer notre intention, parc et tous nos partenaires, on en parlera après, de ce que ça peut recouvrir. Donc, une alimentation durable, c'est une alimentation qui favorise la production locale, déjà, donc développement des circuits courts.
À ce niveau-là, on est plutôt gâté en Chartreuse, parce qu'au niveau de l'agriculture, c'est plutôt riche.
On a effectivement une très grande diversité avec des très bons produits et des producteurs
terroir.
Locaux très, très compétents. Et puis, c'est aussi, ça c'est plutôt le côté donc, production, puis aussi consommation. On veut sensibiliser les habitants à se nourrir autrement. Et donc, il y a toute une série d'outils qu'on a développés dans ce cadre-là pour favoriser cette alimentation durable.
D'actions, on verra tout à l'heure, on en listera quelques-unes avec Gaëtan. Donc, effectivement, c'est inscrit dans la charte, donc c'est pas gravé dans le marbre, mais presque. Il s'agit aussi, Gaëtan, d'une démarche alimentaire interterritoriale, ce qui veut dire qu'il y a d'autres territoires que celui de la Chartreuse qui sont concernés.
C'est ça, exactement. Donc, le parc de Chartreuse est membre du projet alimentaire interterritorial de la grande région grenobloise. Donc, c'est un projet alimentaire qui réunit 9 territoires et 3 organismes autres. Donc, c'est un vaste territoire. Il y a le Vercors, le Trièves, le Grésivaudan, le Pays Voironnais, la ville de Grenoble, la métropole de Grenoble, l'espace Belledonne et du coup, également le parc de Chartreuse. Et donc, il y a 3 autres structures qui sont donc la Chambre d'agriculture, le Conseil de réseau et de développement et le collectif Autonomie alimentaire de Grenoble et ses environs.
Ça fait du monde, d'accord. Alors, il y a plusieurs thématiques de travail qui sont déroulées à partir de cette transition alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous les lister ?
Alors, dans la transition alimentaire, dans la mission du parc, donc on a mis l'accent pour l'instant sur trois grandes thématiques. Donc, il y a la thématique de la restauration collective, la thématique de l'accompagnement au changement de comportement alimentaire.
Alors, on va s'arrêter 2 minutes sur la restauration collective, parce que ça vous parle à vous, mais peut-être pas à nos auditeurs. Est-ce qu'on peut préciser ce que c'est, la restauration collective ?
Alors, la restauration collective, c'est, on va dire un petit peu... Enfin, on peut aussi parler de restauration hors domicile. Donc, c'est tout ce qui concerne les restaurants scolaires, les cantines, tout ce qui est les restaurants d'entreprise...
Les
EHPAD, tout ça. Et donc, on cherche à mener des actions pour favoriser une alimentation de qualité dans ces restaurants. Donc pour l'instant, on se focalise un petit peu plus sur les publics scolaires, puisqu'il y a la loi Egalim qui est en train d'être mise en place, donc, qui sera applicable au 1er janvier 2022. Et donc, on accompagne les communes à répondre au mieux aux objectifs de la loi Egalim, voire de les dépasser.
Qu'est-ce que c'est la loi Egalim ?
Alors, la loi Egalim, c'est une loi nationale qui vise à intégrer 50% de produits durables, dont 20% de produits bio, dans les repas. Donc ça, c'est, on va dire, un peu la mesure phare. Et puis après, il y a d'autres mesures annexes, comme la réduction des plastiques, la réduction du gaspillage. Voilà.
Très bien. Parfait. Eh ben alors, on continue sur la liste des thématiques de travail. On parlait effectivement, vous aviez enchaîné sur l'alimentation plus responsable et durable avec l'accompagnement au changement alimentaire.
Voilà, donc l'accompagnement au changement de comportement alimentaire, on va dire qu'il est multiple, il touche à différentes facettes de l'alimentation.
Peut donner des exemples ?
Oui, alors déjà on va dire qu'il y a le fait de consommer local.
Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin ? Parce que consommer local, ça veut tout dire ou rien dire dans l'esprit des gens. On peut dire qu'on consomme local parce qu'on va à Intermarché. Mais pour autant, pourquoi on ne consomme pas local ? Pas toujours, alors, en tout cas.
Alors, nous, souvent, on aime bien parler de favoriser une alimentation locale, durable et de qualité, et responsable aussi. Et du coup, dans le local, il y a aussi le côté un petit peu responsable, on va dire favoriser une économie territoriale, acheter directement auprès de ses producteurs ou auprès de distributeurs qui vont s'alimenter eux auprès de producteurs locaux.
Alors, par exemple, si je vais acheter mes légumes à Intermarché ou si je vais acheter ma viande à Intermarché, en quoi est-ce que je ne consomme pas local ? Potentiellement.
Alors, potentiellement, hein, c'est possible de consommer local.
Oui, il peut
aussi
y avoir du local.
Mais... c'est que, souvent, quand on passe par la grande distribution, leurs plateformes sont nationalisées, donc on ne maîtrise pas complètement les approvisionnements.
Bah, typiquement, si je vais acheter de la papaye à Intermarché ou du kiwi, déjà, ça c'est sûr, je n'achète pas local.
Voilà, c'est sûr.
Il y a des chances. Hein ?
Et du coup, donc on va dire que c'est un des premiers piliers de l'accompagnement au changement de comportement alimentaire, c'est de montrer que consommer local, c'est possible, et puis que ce n'est pas forcément plus cher, mais ça, on y reviendra après. Et puis, il y a aussi favoriser... peut-être une alimentation bas carbone pour montrer que l'alimentation a un rôle sur le climat. Favoriser aussi peut-être l'autoproduction.
Alors, je reviens sur la notion d'alimentation bas carbone, sans rentrer trop dans le détail, parce que c'est quelque chose que tout le monde ne maîtrise pas encore bien. Je reviens sur l'exemple du kiwi ou de la papaye. C'est sûr que ça, c'est pas bas carbone. Les avocats du Pérou, c'est pas bas carbone, j'imagine, ne serait-ce qu'en termes de transport pour les amener jusqu'au supermarché.
Voilà, quand on parle d'alimentation bas carbone, on essaye de retracer un petit peu toute la chaîne des produits. Donc il y a l'impact de la production, l'impact de la distribution, donc du transport. Après, même on peut aller plus loin avec l'impact de la consommation, de la manière de le cuisiner. Là, dans l'alimentation bas carbone, on essaye aussi de montrer des nouvelles pistes pour avoir quand même un bon apport de protéines, par exemple en consommant plus de légumineuses, peut-être un peu moins de viande, ou alors d'accord, une viande de meilleure qualité. Et puis, ouais.
Local, hein ?
Parce local, qu'on a, idéalement.
On a des éleveurs de vaches à viande localement, notamment, donc autant consommer local. Puis on a des bons bouchers.
C'est sûr. On a tous les savoir-faire qu'il faut en Chartreuse, donc il faut en profiter.
Très bien. Favoriser l'accessibilité de l'alimentation de qualité pour tous, avec des projets de terrain très concrets. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Pour exemple, on a... Alors là, je parle en tant que maire de Saint-Pierre-de-Chartreuse. Effectivement, on a été retenu pour un financement de l'État pour un projet en lien avec l'ADEC, donc l'Association de développement des Entremonts, que vous connaissez bien. On a candidaté pour un projet ensemble où le projet de l'ADEC, c'est de développer une cuisine collective pour permettre aux gens d'apprendre, de toute origine sociale à apprendre à cuisiner avec des conseils, d'un accompagnement. Donc ça, c'est le projet des Entremonts. Et puis, pour ce qui nous concerne, à Saint-Père-Chartreuse, on va mettre en place un système de livraison de repas, voilà, préparé par les restaurateurs ou le cuisinier de la cantine de l'école, pour livrer des repas de qualité aux personnes en difficulté sociale ou aux personnes âgées du village,
ah,
voilà,
super.
Par exemple.
Super, oui, parce qu'en plus, comme on est en zone rurale, c'est sûr que ça ne viendra pas de Grenoble ou de Voiron, c'est plus compliqué. Très bons exemples. Alors, on verra au fil de cette émission les autres choix d'interview qui ont été faits avec Gaëtan, notamment Michel Valette de l'Herbe Tendre, Wilfried Tissot, maire de Saint-Pierre-d'Entremont-Savoie, pour justement la cantine de restauration collective qui se trouve à l'école des deux Saint-Pierre-d'Entremont, et Bruno Desmeillez pour le collectif Semer et Cueillir en Chartreuse. Il y a quand même pas mal de choses qui poussent localement dans le bon sens.
Alors, c'est toi, il y a plein de belles initiatives, il y a aussi encore plein de belles choses à faire, donc ouais, ouais. Il faut qu'on continue
dans la lancée,
à creuser un petit peu ces sujets et puis à continuer dans la lancée. Enfin, c'est vrai que via le PAIT, on met en place le mois de la transition alimentaire qui permet aussi de ressemer des graines et puis derrière de pérenniser un petit peu ces initiatives.
PAIT,
donc, projet alimentaire interterritorial, okay. Dont on parlait tout à l'heure.
D'accord. Très bien. Bah, écoutez, on va découvrir tout au long de cette émission les multiples facettes de la transition alimentaire sur le territoire, avec les projets qui sont déjà en place et ceux peut-être à venir. Un dernier mot de la fin avant de nous quitter et de poursuivre l'émission.
Oui, ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment la question de l'alimentation durable ou la transition alimentaire, c'est vraiment l'affaire de tous. Et c'est vraiment une démarche globale qui implique les producteurs, les collectivités locales, les citoyens. On a chacun à faire quelque chose dans cette affaire-là pour qu'on avance vers une meilleure alimentation. Et donc, il y a deux formules que moi, j'aime bien qui circulent dans le milieu. C'est de la graine à l'assiette. Voilà, c'est une façon de dire que c'est vraiment du début jusqu'à la fin qu'en fait, on travaille. Ou de la fourche à la fourchette. J'aime bien les deux.
Voilà, la fourche à la fourchette, plus connue, effectivement. On les retiendra. En tout cas, merci messieurs pour cet échange. Et on continue l'émission. Bienvenue à vous tous, si vous nous rejoignez maintenant sur les ondes de Radio Couleur Chartreuse, vous êtes dans l'émission Le Parc au Naturel, dont la thématique d'aujourd'hui est l'alimentation, et plus précisément la transition alimentaire. Afin d'illustrer les actions menées sur le terrain, nous sommes allés à la rencontre d'un restaurateur de Saint-Pierre-d'Entremont, Isère, Michel Valette, propriétaire et gérant du restaurant L'Herbe Tendre. Nous l'écoutons. Alors, nous voilà aujourd'hui à Saint-Pierre-d'Entremont-Isère, à l'auberge de l'Herbe Tendre, en compagnie de Gaëtan Pascal, du Parc Naturel Régional de Chartreuse, et de Michel Valette, restaurateur, l'Herbe Tendre. Bonjour messieurs.
Bonjour. Bonjour.
Alors, monsieur Valette, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi on est en particulier dans votre restaurant ?
Eh bien déjà, je vous remercie d'être venu dans notre restaurant, dans notre gîte auberge.
C'est toujours un plaisir de monter dans les Entremonts. C'est un joli coin de Chartreuse.
C'est moins un gîte. Et alors, vous êtes là parce que dernièrement, notamment le samedi 16 octobre, on a fait une démarche un peu particulière dans le cadre de la transition alimentaire, en proposant à nos clients un menu spécifique, tourné, un menu qu'on a appelé d'ailleurs « du producteur à l'assiette ». Et ça nous a permis de... pour élaborer ce menu, on est allé rencontrer des fournisseurs, des producteurs qu'on ne connaissait pas.
Alors, on peut préciser peut-être des producteurs assez locaux.
Ah, des producteurs locaux, effectivement, de Chartreuse, hein, notamment à Saint-Hugues, les jardins de Chamechaude, hein, qui font donc un maraîcher, une maraîchère. On a travaillé avec un berger d'alpage qui nous a proposé de nous vendre une carcasse d'agneau à la descente d'alpage début octobre. Et puis, on a découvert dans cette recherche de producteurs un jeune couple de vignerons à Saint-Imier qui, il y a quelques années en arrière, ont planté des cépages anciens. Donc il y a le persan qui est un cépage d'origine de la Maurienne.
Et je vais vous aider pour le deuxième.
Et puis, je veux bien, oui.
C'est l'étraire de la Duye.
Voilà, l'étraire de la Duye, qui est un ancien cépage originaire de Saint-Imier.
Voilà. Très bien. Donc ça, c'est très local, effectivement. Comment ça s'est passé? Alors déjà, est-ce qu'on peut lister, on l'a sous les yeux, je vous laisse le plaisir de le relire, ça stimule les papilles, hein. Je vous laisse le plaisir de relire le menu qui avait été préparé pour ce jour-là.
Voilà, alors notre chef Thomas, pour mettre en appétit nos convives, a proposé un velouté en croûte de potirons et carottes, donc des légumes qui venaient des jardins de Chamechaude, à Saint-Hugues.
Et qui sont d'actualité.
Voilà, qui sont vraiment des produits de saison. Et puis après, un avarin d'agneaux d'alpage, de Chartreuse, hein, des agneaux qui ont passé l'été au Grandson, voilà, accompagné d'un écrasé de carottes et de pommes de terre provenant également des jardins de Chamechaude. Et puis pour finir ce repas, on proposait un muffin pistaché façon tatin avec des pommes de Savoie. Voilà.
Alors, j'ai jusqu'à vous demander lesquelles de pommes, les Canada ou d'autres? Moi j'adore les Canada. Vous savez pas, c'est le chef qui sait. Ça.
Oui, c'est le chef qui sait.
C'est une question piège. Voilà, c'est pas grave, je viendrai tester un de ces quatre. Ok, alors, on a dit tout à l'heure carcasse d'agneau. Effectivement, vous avez vu débarquer dans votre restaurant une carcasse d'agneau. Vous n'avez pas l'habitude de le voir conditionné de cette façon-là. D'ailleurs, du coup, il n'est pas conditionné du tout. Il est comme ça.
Il n'est pas conditionné du tout. Et le chef, fallait voir sa tête. Hein, parce que c'est la première fois qu'il voyait arriver une carcasse entière dans sa cuisine. Mais Thomas, notre jeune chef, a bien réagi. Et il a mis à peu près trois quarts d'heure pour bien décomposer sa viande, de façon à ce que son avarin d'agneau soit composé de l'ensemble des pièces en dehors des abats de l'agneau. Ça, on a pu travailler la bête complète et non pas que les pièces nobles.
Alors ça, c'est intéressant parce que effectivement, habituellement, quand on l'achète chez le boucher, on a les côtes d'agneau ou on a le gigot d'agneau. Mais le reste, on n'en entend pas parler, on ne voit pas passer. Et,
voilà.
Et pourtant, j'imagine que ça donne du goût au plat. Et
tout à fait.
Ça permet de moins gaspiller, ça fait aussi de la quantité.
Ouais.
Donc ça, tout ça était dans votre navarin d'agneau.
Voilà, et c'est une bonne piste pour nous pour la suite, parce que c'est vrai qu'on a trop l'habitude en restauration d'acheter que des côtelettes, ou que quand c'est du bœuf, que des entrecôtes, ou quand c'est du poulet, que des cuisses, pour que dans chaque assiette, il y ait le même produit, enfin la même forme en tout cas, et du coup là ça nous a forcé à réfléchir à un plat où on avait l'ensemble des pièces et donc limiter les déchets, quoi.
Et alors côté client, ça s'est passé comment?
Eh bien écoutez, les clients d'abord ils ont apprécié, parce que certains producteurs sont venus sur place, donc il y a eu un échange avec les producteurs, les clients étaient surpris mais ont apprécié. Et bah, les remarques du type « bravo pour cette démarche », ça nous a satisfait. Et surtout, ça nous encourage à refaire. Quoi,
hein, alors, on va en parler plus loin, parce qu'on va tomber après avec Gaëtan dans le pourquoi du comment une telle démarche, effectivement, au-delà de vous-même. Comment elle s'est construite, la démarche et le partenariat avec les producteurs? Vous êtes allé les voir avec votre équipe, si j'ai bien suivi?
Voilà, il m'a semblé intéressant. Pour, de façon à ce que ça soit un esprit collectif, que ce soit une démarche collective, d'associer la serveuse et le cuisinier dans la recherche de ces producteurs. Donc on a été passer une demi-journée chez la maraîchère à Saint-Hugues. On a pris notre voiture pour aller à Saint-Imier, parce que c'est pas à côté, hein, c'est un vrai effort qu'il faut faire pour rejoindre Saint-Imier
en
emmenant des entremonts. Mais comme on avait la motivation, on y a été, puis on n'a pas regretté, parce qu'on a été très bien reçus. Et pour ma part, j'ai découvert d'anciens cépages que je ne connaissais pas, et on a prévu maintenant de les mettre à notre carte, parce qu'on a un très bon retour sur cette qualité de vin.
Bon, bah donc y a une certaine pérennité qui s'installe, effectivement, dans la démarche. On en reparlera un peu plus loin. Du côté du parc, Gaëtan, est-ce qu'on peut avoir le pourquoi et le comment d'une telle démarche et puis quels sont les objectifs à court terme et à moyen terme?
Alors, le pourquoi, donc, l'idée de cette démarche, c'était de l'inscrire dans le mois de la transition alimentaire. Donc c'était un événement avec plusieurs opérations sur le projet alimentaire interterritorial du bassin grenoblois. Donc là, l'idée particulièrement, c'était de travailler donc, avec un opérateur économique, donc un restaurateur, et de venir faire du lien avec les producteurs locaux pour déjà faire comprendre les enjeux de chacun.
L'intérêt de chacun
L'intérêt de chacun à travailler ensemble, et puis aussi les enjeux de chacun. Voilà, les éleveurs, par exemple, ont du mal à valoriser leurs pièces secondaires, donc on leur prend souvent des pièces nobles. Lui, le restaurateur, a des contraintes au niveau de la logistique, donc c'est de voir aussi comment on arrive à faire matcher les enjeux de chacun et les besoins de chacun. Donc ça, c'était un peu, on va dire, un rôle d'articulation. Après, l'enjeu, c'est surtout de faire connaître les produits locaux, parce qu'il y a des porteurs de projets, des nouvelles installations, et donc c'était aussi de les faire connaître. Et après, si on pense un petit peu, on va dire, plus à moyen long terme, c'est l'idée un petit peu de développer un esprit chartreuse, qui est une identité un petit peu culinaire qui se dégage avec des produits qui se différencient d'une table à l'autre. Et ouais.
De faire jouer peut-être les circuits courts et le manger local, effectivement. Alors la transition alimentaire, même si on entend beaucoup parler de ça en ce moment, hein, de façon générale ou en particulier, la plupart des auditeurs ne savent pas forcément ce que ça veut dire et ne voient pas forcément en quoi une tablette de chocolat, ça impacte fortement ce mouvement de transition alimentaire, justement, qui est nécessaire, qui va s'imposer dans les années à venir. C'est pas seulement une idée comme ça qui passe, ça va devenir vraiment une nécessité. Est-ce qu'on peut, avec des mots simples, expliquer à nos auditeurs ce que c'est et pourquoi c'est important de commencer à penser transition alimentaire?
Alors, enfin, la transition alimentaire, elle est multiple, elle se joue sur différents tableaux. Déjà, il y a une idée un petit peu de relocaliser nos productions. On se rend compte pour donner un chiffre, par exemple, la France importe 85% de ses fruits et légumes. C'est l'idée qu'il y ait une certaine souveraineté alimentaire qui se dégage. Donc ça, c'est on va dire, un des premiers points de la transition. Le deuxième point, c'est de...
Avec tous les gaz à effet de serre que ça génère.
Voilà, ouais, bah, c'était justement ce sur quoi je venais. Là. Voilà. C'était l'idée d'une alimentation un petit peu bas carbone. De faire comprendre un petit peu l'impact que chacun des aliments a et chacun des systèmes de production a sur notre environnement global.
Alors, pour faire justement une petite photographie de ça, je parlais tout à l'heure du chocolat. Effectivement, le chocolat, ça se fabrique pas, ça se fabrique pas en France, ça se fabrique à l'étranger. C'est pareil pour le café. Enfin, les caféiers, on n'en a pas en France. Et ça nécessite du transport pour l'acheminer jusqu'à chez nous. Et tout ça joue justement sur l'empreinte carbone.
C'est ça, ouais. Alors après, c'est sûr qu'on ne remplacera pas le café et le chocolat en
chartreuse quand
on n'a pas les. Voilà, mais typiquement sur le maraîchage, c'est un bon exemple de souligner une productrice comme les jardins de Cham Chaud. Parce que sur une production qui pourrait être faite localement, eh ben on importe quand même beaucoup d'éléments, quoi. Donc ça, c'était les deux piliers de la transition alimentaire, donc le bas carbone et puis l'économie territoriale.
Et donc la dernière partie, Gaëtan?
Voilà, donc il y a, dans la transition alimentaire, il y a aussi un enjeu de, d'économie territoriale. Donc de faire, de faire comprendre qu'en achetant local, eh ben l'économie locale est, en bénéficie. Que derrière, même si des fois on a l'impression de payer peut-être un petit peu plus cher, c'est des, il y a des retombées pour le territoire au niveau global sur, sur l'emploi, sur la santé, sur voilà.
D'accord, ok, super. Et après?
Et après, et bah, du coup, je pense que l'idée c'est de déjà de montrer que cette opération a été une réussite et puis de voir comment on peut la pérenniser et puis l'essaimer aussi. Donc j'ai envie de dire un petit peu montrer à d'autres acteurs que c'est jouable, que même, même si c'est temporaire, voilà, à force de pas par pas, peut-être qu'on arrivera à faire un...
À inverser un peu le mouvement.
Voilà, c'est ça, ouais. Et puis de réussir à lever les freins des uns et des autres, que ce soit des producteurs, des transformateurs ou des acteurs économiques, pour que ce soit à long terme et que ça continue.
Super. Bon. Et du côté de Michel Valette, alors moi j'ai envie de vous demander pourquoi est-ce que vous, restaurateur des Entremonts, vous avez souhaité vous raccrocher à cette démarche qui a été proposée par le parc?
Bah, je crois que quelque part il y a quand même le côté citoyen. Enfin, on est tous au courant. Enfin, on entend tous parler de ce problème, de cet enjeu climatique, et puis le fait de, en fonction de ce qu'on va manger, ça a un impact également sur le. Enfin, d'où vient notre nourriture et quel type de nourriture, hein, quand on nous dit qu'il faut moins manger de viande parce que ça dégage certains gaz et puis du méthane et puis le CO2. On est tous un peu conscients de cela. On manque un peu d'idées des fois pour le mettre en pratique. Et ben, je crois qu'on peut dire merci au parc, parce que c'était une bonne initiative pour nous d'essayer de concrétiser un peu cette idée et de prendre conscience qu'à notre, modestement, à notre échelle, on pouvait faire quelque chose. Alors, est-ce que le Navarin d'agneau, c'est ce qu'il faut reconduire par rapport pour moins manger de viande, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce Navarin d'agneau, ça nous a... C'est, pour un restaurateur, c'est important d'avoir quelque chose qui soit
de stimulant.
Stimulant. Et c'est vrai que la descente d'alpage, la semaine où on a fait ça, enfin la semaine suivante, on avait 1000 moutons qui défilaient devant le restaurant. On aurait fait ce jour-là, ça aurait été encore peut-être mieux. Mais voilà, c'est vraiment un moment fort de la saison, hein, de cette descente d'alpage. Donc ce Navarin d'agneau d'alpage, c'est quelque chose qu'on refera les prochaines années. Merci au parc pour nous avoir fait connaître les jardins de Chan Chaude. On espère que ça va la développer.
Et le viticulteur.
Et puis le viticulteur, ça c'est quelque chose de magnifique, parce que ça nous a permis, ça va nous permettre d'étendre notre gamme de propositions de vin et puis de découvrir des cépages qu'on est en train d'oublier, puisque c'est des anciens cépages, et puis de soutenir des jeunes qui n'ont pas peur d'investir en plantant des vieux cépages. Comme ça, c'est, ouais, donc c'est pour nous, c'est vraiment positif.
Qui prennent des risques. Alors, ça a même été positif au sein de l'équipe, puisque c'était un défi à relever quelque part. Alors, un nouveau défi.
Oui, c'était au niveau de l'équipe, c'est intéressant parce que ça soude un peu. Ça fait un projet moteur. Et c'est la transition alimentaire, la sensibilité par rapport au climat. On n'en parle pas vraiment tous les jours entre nous. Et là, c'était l'occasion un petit peu d'en discuter, ou même avec nos clients. Voilà, donc c'est une démarche constructive et positive par rapport à cette démarche de transition alimentaire.
Alors on parle pour finir des clients. Alors vos clients, comment justement ont-ils réagi à cette journée spéciale et ce menu spécial?
Bah écoutez, en tout cas le menu est bien parti. L'année où il n'y en avait plus le soir, donc
d'accord,
je pense qu'ils ont apprécié.
Proposé midi et soir.
Ils ont apprécié. Ce qu'ils ont... Ils ont apprécié deux choses. Comme on avait certains producteurs qui étaient sur place, le dialogue qui s'est passé entre le producteur qui expliquait un peu sa problématique et puis les clients, même s'ils ne savaient pas toujours qu'ils allaient rencontrer ces producteurs, c'était intéressant en tout cas de les voir discuter, de voir qu'il y avait un dialogue qui s'instaurait. Et puis le deuxième point qui était intéressant, le deuxième point des clients, c'est que ce qui m'a fait un petit peu plaisir quand ils partaient, et qui nous disait qu'ils avaient beaucoup, qui nous remerciaient de la démarche qu'on avait entreprise. Voilà, quelque part, je me suis dit, tiens, on a proposé un menu, mais ils ont même compris qu'il y avait une démarche là derrière, et que pour la plupart, ils étaient satisfaits. J'étais content d'avoir
participé
à cette,
à leur façon.
À leur façon, voilà.
À cette démarche.
Voilà. Donc, à refaire Gaëtan.
Je suis partant.
Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Merci messieurs pour ce joli témoignage et puis certainement à très bientôt sur les ondes de Radio Couleur Chartreux.
Et ben à très bientôt, on vous attend tous à l'herbe tendre.
Ah ben avec plaisir, gourmande moi.
Radio Couleur Chartreuse, au cœur du massif.
Si vous venez de nous rejoindre sur les ondes de Radio Couleur Chartreuse, vous êtes dans l'émission Le Parc au Naturel, dont la thématique d'aujourd'hui est la transition alimentaire. Parmi les autres actions menées sur le territoire, il y a également celle de la cantine collective de l'école de Saint-Pierre-d'Entremont, qui dessert les écoles Isère-Savoie. Afin de mieux comprendre ce dont il retourne, nous avons interrogé le maire de Saint-Pierre-d'Entremont-Savoie, Wilfried Tissot. Alors, je suis ici à la mairie de Saint-Pierre-d'Entremont-Savoie en compagnie de M. Wilfried Tissot, qui en est le maire. Bonjour Monsieur Tissot, j'allais vous dire M. Wilfried.
Bonjour, bonjour.
Alors, nous sommes ici pour parler de la cuisine en gestion directe qui se fait à l'école locale qui concerne à la fois Saint-Pierre-d'Entremont-Isère et Saint-Pierre-d'Entremont-Savoie. Qu'est-ce que c'est qu'une cuisine en gestion directe? En quoi ça consiste?
Alors, la cuisine en gestion directe, ça veut simplement dire que tout le personnel de cuisine, la cuisinière et les aides cuisinières, sont directement embauchés par les mairies. Au contraire, on peut très bien tout à fait avoir un contrat, par exemple, avec une entreprise qui livrerait des repas. Donc là, on aurait juste des repas qui seraient... on paierait un repas par enfant, voilà. Mais là, non, nous, on a une cuisinière et c'est elle qui s'occupe de faire les repas.
Alors, c'est vous qui l'embauchez, c'est elle qui fait les repas, ok. Après, elle fait les repas dans un certain cadre que vous avez défini au niveau des deux municipalités. Avec déjà pour commencer des approvisionnements et des liens avec tout ce qui est local.
Oui, c'était l'un des objectifs. Le premier objectif de cette cuisine, donc, qui a été créée il y a déjà plusieurs années. Hein, moi, j'étais pas maire à l'époque. Et côté Isère, c'était aussi un autre maire. Hein, et les deux communes, les deux Saint-Pierre-d'Entremont, se sont entendus pour réaliser cette cantine directement en régie directe. Donc l'objectif initial, c'était quand même que de faire manger aux enfants des produits qui soient le plus local possible et de qualité. Donc bio ou pas bio, si jamais on a des produits qui ne le sont pas, mais qui sont quand même de qualité. Et il fallait quand même que voilà qu'il y ait tout ce travail qui soit réalisé pour que les enfants puissent bénéficier de ces produits-là.
Alors, est-ce qu'on peut citer quelques-uns des produits locaux qu'on va trouver facilement en Chartreuse, par exemple?
Alors, bon, les approvisionnements évoluent tout le long en fonction des années, hein, mais on avait par exemple un agriculteur qui fournissait des pommes de terre, bon, je ne sais pas si on peut nommer, hein, donc il s'appelait Lionel, mais voilà, il y avait des quantités qui étaient pas si importantes que ça, et il pouvait fournir ça, donc voilà, on avait cet approvisionnement-là. On s'est vite rendu compte quand même que sur la viande vient en général de la boucherie Guerre, par exemple.
Qui est une boucherie de renom dans les Entremonts, voilà. Et en Chartreuse de façon générale, oui.
Exactement. Par contre, on s'est quand même vite rendu compte que c'était quand même très compliqué parce que ça demandait énormément de travail et surtout de présence. Et c'est ça qui était compliqué. Quand vous avez plein de petits producteurs, eh ben, c'est plein d'approvisionnements différents et du coup, une logistique différente.
Oui.
Les agriculteurs sont avant tout agriculteurs. Ils ne sont pas là pour faire de la livraison.
Ils
ne
livrent pas, oui.
Et voilà, et du coup, ils vont, eux, caler une livraison, fournir 4, 5, 6, 7 restaurants ou je ne sais quoi, qui vont fournir, et dans leur tournée, ben, il y aura l'école. Ce qui fait qu'il faudrait être là 4, 5, 6 fois par jour, toute la semaine, pour dire d'obtenir ces livraisons. Et ça, c'est compliqué, parce que nous, la cuisinière et le personnel de cuisine ne sont là que le lundi, mardi, le jeudi, vendredi, mais ils ont des heures qui sont compter pour dire de pouvoir faire la cuisine, mais tu ne peux pas tout faire en même temps. Et ce qui nous arrangerait, nous, c'est que ce soit les livraisons soient faites toutes au même moment.
Et ça, qu'elles soient centralisées, en clair.
Voilà, oui. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va devoir travailler à l'avenir, savoir comment est-ce qu'on peut améliorer ce système. C'est certainement pas quelque chose qu'on pourra faire tout seul. C'est peut-être à l'échelle du parc ou de la communauté de communes de voir s'il y a des plateformes qui peuvent se mettre en place pour qu'une plateforme livre chacune des écoles, par exemple, ou livre différents centres qui auraient une cuisine comme ça collective.
Alors
pour l'instant, c'est vraiment du projet un peu vague. On en parle dans les commissions.
Voilà, on va en reparler un petit peu plus loin dans l'interview.
Oui.
Pour revenir à la cuisinière qui a un rôle assez central, une place assez centrale par rapport à cette gestion directe, c'est un peu la chef d'orchestre de cette cuisine et des modalités que vous avez données, le la que vous avez donné sur ce que vous en attendez. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu mieux son rôle en dehors du fait qu'elle fait la cuisine, j'imagine, voilà.
Alors oui, bon, bien sûr, son premier rôle, c'est effectivement de faire la cuisine, donc elle a bien sûr tous les diplômes pour, hein, tous les diplômes qui sont nécessaires en termes d'hygiène, de qualité nutritive, etc. Mais on a la chance d'avoir une cuisinière qui est une ancienne artiste. Et qui sait mettre en valeur les aliments. Donc c'est quelqu'un qui a cette capacité à faire avec n'importe quel aliment quelque chose de beau, quelque chose qui donne envie d'être mangé. L'un des premiers objectifs, c'est de...
C'est joli à l'œil, déjà.
De donner envie aux enfants de goûter, de tester et d'apprécier. Donc, on les fait manger des produits qu'ils n'ont pas toujours l'habitude de manger, de goûter chez eux.
On peut donner des exemples, Monsieur Tissot ?
Oh là là, comme ça, tout de suite.
Je prends au dépourvu.
Vous me prenez au dépourvu.
Par exemple, des topinambours,
Oui, il y avait des soupes, j'arrive plus à me rappeler quelle soupe c'était, chez moi, mes enfants ne les mangeaient pas, mais ils la mangeaient, par exemple,
Versus école, parce que la déco ou la présentation...
Peut-être. Alors, est-ce que c'est aussi le fait d'être en collectivité ? J'en sais rien, au final. Mais en tout cas, le fait est que ça marche. Et puis, il y a donc ce rôle du beau, le fait de donner envie, mais il y a aussi tout le côté pédagogique, puisque du coup, elle suit. Les enfants vont utiliser cette cuisine, par exemple, pour leurs anniversaires. Tous les anniversaires sont regroupés par mois, et les enfants qui ont leur anniversaire vont préparer leur gâteau d'anniversaire. Donc, les enfants mettent la main à la pâte, vont faire la cuisine eux-mêmes, encadrés par, du coup, cette professionnelle qui, non seulement sait faire la cuisine, mais sait expliquer. Elle sait dire les choses aux enfants, elle a cette gentillesse, elle a cette attention vis-à-vis des enfants qui font que les enfants prennent plaisir à aller cuisiner eux-mêmes dans notre cuisine. Donc, alors, ça, c'est important parce que c'est un outil central dans la pédagogie, l'alimentation. On en fait quelque chose de central dans l'éducation.
Très bien, mais alors du coup, par exemple, pour confectionner les gâteaux d'anniversaire, on va utiliser des ingrédients locaux, le lait, les œufs, du massif, pour aller jusqu'au bout du raisonnement.
Alors, ça oui, c'était l'objectif. Alors, bon, on a, pour l'instant, on peut pas dire qu'on y arrive complètement, parce qu'on a ces problèmes d'approvisionnement là qui sont très disparates dans le temps et ça pour l'instant on n'a pas trouvé la solution. Donc pour l'instant tout ce qui est bio ça vient de Manger Bio Isère, donc on a les 20% qui sont de l'ordre de la légalité. Et après la cuisinière qui va s'approvisionner à droite à gauche. Alors globalement oui c'est toujours relativement proche. Mais je dirais que c'est pas ultra local. On est dans le département, les départements de l'Isère et de la Savoie.
D'accord. Bon, ça reste quand même raisonnable, oui, on va dire.
Oui, ça reste raisonnable. Donc, en tout cas, elle la cuisinière qui fait les approvisionnements a cette sensibilité-là. Après, je dis que pour des raisons pratiques, c'est pas toujours évident parce que on n'a pas non plus des quantités gigantesques. Du coup, c'est des toutes petites livraisons et. Et c'est compliqué de demander absolument à ce que la livraison soit tel jour, telle heure.
Alors, le choix, vous l'avez expliqué tout à l'heure, ce choix de cuisine en gestion directe, ce n'est pas vous qui l'avez fait à l'origine, hein, puisque c'était les deux anciennes équipes municipales qui étaient en place.
Oui.
Pourquoi avoir choisi, du coup, de le perpétuer, de le continuer ? Est-ce que les retours des enfants sur le plan gustatif, sur ce qu'ils mangent ou découvrent, a été un facteur déterminant. Est-ce que, en termes de coûts, quelles sont les raisons qui vous ont amené aujourd'hui à continuer ce mode de gestion directe? Est-ce qu'il a déjà fait ses preuves du temps des anciennes municipalités?
Alors oui, si on a choisi de le continuer, c'est parce qu'on s'est aperçu que c'était une bonne idée. Donc aussi bien côté Isère et côté Savoie. Donc on est très content de cet outil que l'on trouve. C'est quand même très agréable de pouvoir avoir sa cuisinière et de pouvoir aussi gérer les déchets. C'est-à-dire qu'on a très peu de déchets par rapport à des contrats qu'on pourrait avoir avec des sociétés extérieures, puisque chaque portion, elle peut être calibrée pour par rapport à chaque enfant. Donc même dans la gestion des déchets, c'est quand même très enfin ça correspond bien aux besoins. Donc on a choisi de continuer tout en ayant une analyse sur ce qui va bien et ce qui va pas bien. Donc aujourd'hui on se retrouve devant deux choses qui ont peut-être été mal évaluées ou en tout cas voilà sur lesquelles on n'avait pas assez de connaissances. C'est cet approvisionnement en local, que c'était peut-être beaucoup plus difficile, enfin en ultra-local en tout cas, beaucoup plus difficile que ce qui n'y paraît.
D'accord.
Voilà, donc ça, on va essayer de travailler là-dessus. Par contre, comme je vous disais, ce n'est pas à l'échelle de notre commune, ça sera plutôt à l'échelle d'un regroupement de communes, soit comité de communes, soit PNR, peut-être dans le cas du plan alimentaire interterritorial, le PAIT, donc qui va même bien au-delà de notre comité de communes et du parc naturel régional de Chartreuse. Et le deuxième point, c'est le coût, puisque du coup, on a des charges fixes qui sont importantes et en fonction de la fluctuation des enfants qui viennent manger à la cantine, le coût du repas peut devenir très élevé. Et ça, il faut essayer en fait de le maîtriser, ce coût. Et pour ça, il faut peut-être s'assurer d'avoir plus d'enfants à la cantine, donc peut-être travailler sur des regroupements d'écoles. Quand je dis regroupement d'écoles, c'est-à-dire peut-être essayer de fournir...
De faire une cuisine centrale
Bah peut-être sous une forme de centrale, en tout cas créer peut-être une liaison chaude, voilà, faut regarder ce qui est faisable ou pas. On va regarder ça dans le cadre de ce PAIT, il y a des études qui peuvent être menées et on va regarder donc le plan alimentaire interterritorial, on va regarder si c'est faisable, réaliste, à quel coût, donc de voir, ça serait bien de pouvoir monter, je dirais, à au moins 70-80 enfants qui mangeraient à la cantine régulièrement.
Aujourd'hui, vous en avez combien ?
On est entre 40 et 50.
Oui, donc presque doublé l'effectif actuel de.
Oui, peut-être un petit peu, pas forcément doublé, mais oui.
D'accord. Très bien. Alors, vous avez commencé à livrer la chose. Effectivement, dans les projets futurs, il semblerait que d'autres communes soient intéressées par cette question de cuisine en gestion directe. Vous avez fait tache d'huile, comme on dit. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur la réflexion qui pourrait se mettre en place à court, moyen terme ?
Alors, on a fait tâche d'huile, oui. En tout cas, c'est dans l'air du temps.
Oui, c'est vrai aussi.
On a aujourd'hui de plus en plus de parents qui s'inquiètent de l'alimentation de leurs enfants et de plus en plus d'élus qui se disent avoir un rôle à jouer sur l'aspect pédagogique de l'alimentation. C'est quand même faire en sorte que l'alimentation redevienne un élément central, qu'on ne mange pas n'importe quoi, pourvu que ce soit pas cher. Donc accepter que ça coûte un peu plus cher, mais par contre que ce soit une alimentation de qualité. Donc ça, c'est dans l'air du temps. Donc je dirais que nous, on a pris une option. On a pris cette option qui est d'une régie directe, d'avoir notre cuisinière, notre cuisine. L'école, elle avait déjà été pensée. L'école a été construite en 2013. Elle a été pensée avec cette cuisine. Donc, il y avait déjà des idées derrière la tête depuis cette époque-là. Ça a été une option, mais il y a d'autres écoles, il y a d'autres façons de faire, il y a d'autres méthodes. Qui existent. Il y a des plateformes qui existent avec des plateformes, des centrales, des cuisines centrales en fait, qui livrent plusieurs écoles. Il y a plein de systèmes qui existent. Nous, on a pris ce parti pris. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ce parti pris, il prend un petit peu. On a en tout cas, nous, un certain nombre d'élus et de cuisines aussi qui viennent nous voir, enfin de cuisiniers en fait, qui viennent voir comment on fonctionne. Donc ça veut dire que ça intéresse. Après, effectivement, il y a cette question de la maîtrise des coûts, parce que du coup, on est quand même un petit peu plus cher que d'autres systèmes. Mais à voir si ce système un petit peu plus cher vaut le coup quand même ou pas. Donc nous, on a pris le parti de se dire que ça valait le coup.
Avec la possibilité de mutualiser un certain nombre de process, peut-être la livraison notamment des denrées, comme on le disait tout à l'heure, ou peut-être la mutualisation des repas avec d'autres cantines locales, les groupements d'achat aussi. Enfin, il y a plein de pistes qui peuvent être intéressantes à suivre et qui sont donc en réflexion déjà actuellement ou qui vont être en réflexion courant 2022.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, ça peut être mutualiser deux écoles ou trois écoles. Ça peut être aussi mutualiser les repas sur une école avec aussi des maisons de retraite, par exemple. Donc, voilà, il y a plein de choses comme ça. Il faut regarder. Ça paraît simple, dit comme ça sur le papier, mais souvent, dans les faits, c'est un peu plus compliqué.
À mettre en musique,
oui. Voilà, ça demande une vraie étude et peut-être que dans le cadre de ce plan alimentaire interterritorial, il y aurait des possibilités d'essayer d'évaluer tout ça.
Alors, l'interterritorial dont vous parlez, c'est la 4C ou c'est plus grand que la 4C?
Non, là, c'est plus grand. C'est à l'échelle même, il y a le Grésivaudan. Enfin, donc, c'est un très grand territoire.
D'accord.
Dans lequel il y a une partie de ce territoire et le parc naturel régional de Chartreuse. Donc, vous voyez, c'est plus grand.
Oui. Ça. Très bien. Ben écoutez, Monsieur Tissot, merci pour ce témoignage. Et puis, à très bientôt.
Eh bien, c'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Au revoir.
Radio Couleur Chartreuse, c'est sur le 98.4 et le 106 FM au cœur du massif. RCC.
Nous sommes toujours dans l'émission du Parc au naturel sur la thématique de l'alimentation et nous terminons notre tournée des Grands Ducs, c'est le cas de le dire, par l'association Semer et Cueillir Ensemble à Saint-Laurent-du-Pont avec Bruno Demeyez et Gaëtan Pascal qui viennent nous présenter cette initiative citoyenne qui présente un autre pan de ce que peut être la transition alimentaire. Alors, nous changeons de décor. Nous sommes toujours en compagnie de Gaëtan Pascal, du Parc naturel régional de Chartreuse, chargé de mission alimentation. Hein, c'est ça, Gaëtan,
c'est ça.
Bonjour.
Alimentation et ressources locales, bonjour.
Et en compagnie également de Bruno Demeyez, du collectif Semer et Cueillir. Bonjour, Bruno.
Bonjour.
Alors, l'objectif là de cette interview, c'est de faire un zoom justement sur ce collectif Semer et Cueillir Ensemble qui se trouve à Saint-Laurent-du-Pont, qui est un jeune collectif. Alors, on va savoir de quand il date, vous allez nous l'expliquer. Mais surtout, quel est l'objet de ce collectif?
Alors, au niveau du collectif, en fait, il est effectivement très récent puisque le collectif s'est créé en août l'année dernière et l'association qui est issue du collectif s'est créée cet été, également au mois d'août. Donc voilà, ça pour les dates un petit peu. Maintenant, concernant l'objectif du collectif, c'est d'œuvrer pour améliorer la résilience alimentaire du territoire en mettant en place des espaces de culture sur le territoire qui soit librement accessible à la cueillette pour les habitants du territoire.
Alors, d'une certaine façon, vous semez et les habitants récoltent?
C'est exactement ça, mais ils peuvent aussi venir semer avec nous. On les invite à nous rejoindre sur les week-ends. Ça sera avec plaisir qu'on fera de nouveaux membres. Voilà.
que vous accueillerez de nouveaux membres. Ok, alors justement, ces lieux de culture, on peut les trouver où à Saint-Laurent-du-Pont ?
Alors, il y a trois lieux aujourd'hui sur Saint-Laurent-du-Pont. Le premier lieu se trouve à côté du centre social, qui est un espace qui va à terme accueillir une serre pédagogique. On a un deuxième espace au niveau de la cure, qui est un espace qui, lui, est aujourd'hui complètement utilisé et où on a effectivement mis en place à peu près 60 mètres carrés de planches potagères, dans lesquelles les gens peuvent venir effectivement récolter des légumes. Ça fait maintenant, depuis le mois d'avril, qu'on a commencé sur ce terrain-là. Et le dernier terrain se trouve du côté des stades, entre les stades et Paturles. C'est l'ancien terrain d'un maraîcher qui était présent depuis quelques années et qui a arrêté son activité. Et on a repris donc le terrain et une partie de son matériel.
D'accord, un terrain assez grand et assez sympathique. En outre, vous proposez des ateliers, ou en tout cas des temps de présence les dimanches après-midi à partir de 15h.
Oui, tout à fait. Alors depuis maintenant un mois, on a récupéré effectivement ce terrain au niveau des stades, donc. Et ce terrain dispose d'une grande serre dans laquelle on peut accueillir effectivement de manière complètement régulière les habitants. Et donc on a mis en place, à partir de depuis trois semaines, on a mis en place effectivement cet accueil le dimanche après-midi à partir de 15h. Avec régulièrement des ateliers qui sont proposés. On en a proposé deux récemment, un sur les semences et un autre sur les nichoirs pour chauves-souris.
Ah oui, sympa. Nos amis les chauves-souris qui n'ont pas toujours bonne réputation, mais c'est sympa. Vous travaillez également auprès des écoles et de la jeunesse avec les associations du PAGE, du Centre social des Pays du Guier, le Collège du Grand Son.
Oui, c'est important pour nous également de toucher la population la plus jeune, je dirais. C'est notre avenir, finalement, les jeunes. Donc, on essaye effectivement au maximum de pouvoir les accueillir. Alors, on accueille les enfants des adhérents qui viennent régulièrement sur les terrains. Mais on a effectivement plusieurs actions auprès des différentes associations de jeunesse et des écoles et du collège, notamment avec le Club Nature qu'a mis en place le collège depuis maintenant plusieurs années. Donc, on essaye d'intervenir régulièrement près des enfants pour les sensibiliser. Bon, ils sont beaucoup plus sensibles que les adultes en général, et c'est vrai que c'est agréable de les voir s'émerveiller un peu par rapport à la nature. Donc voilà.
Ils sont sensibles, du coup, petits ou grands ou ados, c'est un sujet qui leur parle.
Alors c'est un sujet qui leur parle, peut-être plus aux plus petits qu'aux ados,
oui.
Parce que
les ados, ils ont d'autres préoccupations en général.
C'est ça. Oui, on en a tous à la maison. C'est un peu que c'est pas forcément le moment où ils sont plus sensibilisés par rapport à ça, mais en tout cas, effectivement, les pré-ados, on va dire, et les jeunes enfants, oui, sont très intéressés par tout ce qui est lié à la nature, mais pas seulement la culture de légumes, etc. Tout ce qui est au niveau de la biodiversité les intéresse également. Et on essaye de parler des chauves-souris. Ça fait partie de la biodiversité et on sensibilise aussi à ça.
D'accord. Alors, vous avez obtenu des subventions de la part de la préfecture et du Centre social des Pays du Guier.
Oui,
qui vont vous permettre de continuer à semer, c'est le cas de le dire, avec l'achat d'arbres fruitiers et des formations pour apprendre à gérer, démultiplier les plants.
Oui, tout à fait. On a effectivement candidaté donc avec le centre social, avec le parc, à un appel à projet de la préfecture de l'Isère dans le cadre du plan de relance. On a réussi effectivement à avoir de belles subventions qui vont nous permettre de mettre un vrai coup d'accélérateur, je dirais, sur nos différentes actions. Et notamment l'achat de serres, on parlait des serres tout à l'heure, mais également l'achat de fruitiers et la formation, on va dire des compléments de formation pour les membres du collectif, de manière à pouvoir effectivement démultiplier tout ce qui est comestible, arbres, lianes, arbustes et autres. Et ensuite, retourner vers la population, vers les habitants, pour également partager ce savoir et essayer de faire en sorte que tout le monde soit capable demain d'en faire autant.
Alors, on va y revenir sur la fin de l'interview. Par ailleurs, je me tourne là vers Gaëtan, mais je vous invite à parler à deux voix, hein, s'il y a matière, il y a forcément matière. Il y a un projet en cours avec le lycée horticole de Saint-Ismier, je ne vais pas arriver à le dire, j'ai vraiment du mal ce S, Saint-Ismier, côté Grésy-Vaudan, en partenariat avec le parc.
Oui, c'est ça. Alors, c'est un projet qui naît de... d'un projet qui est mené depuis 5-6 ans par le parc. En gros, donc, on s'intéresse ici à la biodiversité cultivée. Donc, en gros, c'est tout ce qui concerne les plants maraîchers, les plants fruitiers, on va dire semences d'autrefois qu'on ne retrouve pas forcément maintenant chez les pépiniéristes actuels. Et donc, l'idée, c'était de ne pas perdre cette biodiversité d'antan. Et du coup, de remettre la main déjà sur des graines anciennes. Donc pour ça, on est allé voir dans une banque de semences, Vavilov. Et puis après, derrière, de voir comment on peut réussir à pérenniser ces cultures. Du coup, en lien déjà avec un multiplicateur. Donc là, ce serait un peu le rôle du lycée de Saint-Imier. Et puis derrière, avec... aussi des collectifs et puis des jardiniers amateurs. Donc, là, c'est l'idée de faire du lien avec le collectif Semer et Cueillir Ensemble.
Qui existe localement sur le territoire. D'accord. Pour clore un petit peu cette présentation de votre collectif, ça va loin puisque les surplus récoltés sont offerts à la banque alimentaire. Ce qui est un beau geste, avec une quinzaine de kilos environ chaque semaine
en ce moment,
de fruits et légumes. En ce moment, ça donne bien. Et si on va sur des objectifs, à moyen terme, il y en a plusieurs, aider les gens à se nourrir et à reproduire ce modèle de culture chez eux, dans la mesure du possible, et à leur échelle, si notamment ils sont en appartement. Et tendre aussi vers une certaine autonomie alimentaire.
C'est ce qu'on essaye de développer effectivement. D'ici quelques mois, on devrait être en mesure de proposer des plans directement à la population. Donc, on a cette fameuse date des Saintes-Glaces, donc en général à la mi-mai, où on peut commencer réellement à mettre en terre les plants potagères. Et donc, on utilisera notre grande serre pour tenir au chaud les plants de tomates, de courgettes et autres. Et ensuite, on pourra les distribuer gentiment et gratuitement à la population.
Alors finalement, ce n'est ni plus ni moins que des choses qu'on savait déjà faire avec des savoirs ancestraux et qu'on reprend, sur lesquels on revient finalement dans un contexte mondial où on est dépassé par plein de choses.
Ça fait du bien des fois de revenir justement un peu aux fondamentaux,
aux bases.
Et effectivement, on n'a rien inventé. Ça fait maintenant plusieurs siècles qu'on cultive et les techniques sont toujours les mêmes. Et on essaye de revenir à ces anciennes techniques. On parlait des graines ancestrales qui étaient présentes sur le territoire depuis longtemps et cultivées sur le territoire. Les techniques, c'est pareil, elles sont ancestrales et on se replonge dans ces techniques, on réapprend finalement ce qu'on a un peu oublié à force de vivre en ville.
Très bien. Écoutez, messieurs, merci pour ce témoignage.
Merci à vous.
Bon vent au collectif Semer et Cueillir. Si on a des Chartroussins et notamment des Laurentinois qui sont intéressés par la démarche, ils s'adressent à qui? Comment on vous trouve?
Alors, on a une page Facebook sur laquelle on peut nous trouver assez facilement.
Semer et cueillir ensemble.
Voilà. Toutes nos communications sont souvent reprises par la mairie, par le centre social ou par le parc. Donc, je pense qu'en termes de visibilité, en tout cas Internet, voilà. Puis, autrement, on peut m'appeler sur mon numéro de téléphone, par exemple.
D'accord. On peut le donner?
Oui, bien sûr, pas de problème. Donc, 06 58 84 00 70. Donc, 06 58 84 00 70.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, messieurs, et à très bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Merci d'écouter Radio Couleur Chartreuse. Passez une bonne journée sur RCC.
Voilà, cette nouvelle émission du Parc au naturel sur la transition alimentaire touche à sa fin. Nous espérons vous avoir convaincus, si besoin était, de manger et de produire plus local, autant que faire se peut. Si le sujet de la transition alimentaire vous intéresse tout particulièrement, nous vous invitons à écouter le Bouillon de Chartreuse spécial Défi Locavore qui passe sur nos antennes ce samedi 13 et dimanche 14 novembre à 11h. Le podcast sera à disposition sur notre site en début de semaine prochaine. Je vous rappelle que l'émission du Parc au naturel, c'est tous les mardis à midi et le samedi à 18h. Très belle fin de semaine à vous tous et à très bientôt pour une prochaine émission du Parc au naturel sur la thématique du patrimoine culturel. Bye bye.